Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mais en tout cas, on va passer à la petite partie interview de toi, Vincent, d'abord. Est-ce que tu veux bien te représenter pour les gens qui nous rejoignent dans le chat ?
Donc, je suis Vincent Frédéric Colombo, créateur guadeloupéen, basé à Paris depuis une bonne dizaine d'années. Je crois que ça fait près de 14 ans que je suis en France. Je fais un parcours art appliqué au lycée, BTS design produit par la suite, une petite année en socio-anthropo à Lyon et un seul semestre à la Aide à Genève.
Pourquoi un seul semestre? T'as quitté ou...
J'ai pas quitté.
Ils t'ont quitté?
Non. C'est toujours un peu particulier puisque j'ai fait partie d'une promo qui a pas été chanceuse où le jour de la rentrée, parce que dans cette école il n'y a pas que la mode, mais c'est l'une des filières les plus connues. Le jour de la rentrée, de manière interfilière, on nous dit que le premier semestre est éliminatoire. Voilà.
Comme ça, éliminatoire.
Ouais. Donc ça, on s'est dit, bon, ok, c'est Koh-Lanta. Et en fait, on s'est juste dit, bon, faut avoir la moyenne dans tout, au moins pour l'ensemble du semestre. Et en fait, c'était que la réussite de deux ateliers dans une matière qui définissait notre avenir pour la suite. Et ça, on l'a su qu'à la fin du premier atelier.
Ah donc, on vous dit c'est éliminatoire, mais on vous dit pas quelles sont les règles.
Exactement.
Yes. Okay.
Et c'est quand
on nous Koh-Lanta.
Et quand on nous annonce en fait que les notes pour le premier atelier, on dit que tous ceux qui n'ont pas eu la moyenne, ils sont pas présents pour le deuxième semestre, et tous ceux qui vont rater le prochain atelier ne seront pas présents pour le deuxième.
C'était quoi ?
La
Haute École d'Art et de Design de Genève.
C'est payant ?
Non, c'est une école publique.
Ah, putain,
et qui revient, franchement, tout le monde est en train d'encenser un tas d'écoles en France et tout, mais quand je crois que j'ai jamais eu une qualité d'école aussi optimale, en fait, parce que ce qui est hyper cool dans cette école, contrairement au système français, c'est la Suisse, donc c'est basé sur la confiance pour beaucoup. En fait, on pouvait rester jour et nuit à l'école, aussi bien semaine que week-end. Il suffisait juste de demander l'accès, d'avoir les clés, et on se le passait en fait entre élèves. Et en fait, on avait des salles de machines, on avait une salle informatique, on pouvait faire notre vie et presque camper sur place. Bon, c'était plus l'éveil de rendu qu'on commençait à faire nuit blanche. Et franchement, l'école est pas très chère. À l'époque, moi, j'avais payé l'équivalent de 1150 francs l'année. Donc, ce qui change des 7-8000 euros que demandent certaines écoles privées à Paris. Et de ce que j'avais compris, l'État suisse prend en charge, sur chaque tête de l'école, je crois, l'équivalent de 33000 francs suisses ou un truc comme ça.
Ok, incroyable.
Donc, en gros, c'est une école publique. C'est juste admis sur concours. Mais après, on a une qualité de travail qui est géniale. Enfin... Après, c'est juste qu'on est pas mal excentré par rapport à tout ce qui est production, tout ce qui est tissu, parce qu'ils en vendent sur place, mais ça revient cher.
T'es à Genève, c'est à Genève.
Ouais.
C'est la teuf à Genève.
Maintenant, j'y retourne pas mal pour la fête.
Ah ouais ? Quoi ?
J'y vais la semaine prochaine encore.
Est-ce que ça devient The Place to Be ?
Quoi ? Non mais qui va faire la
fête ?
Il y a un super festival qui s'appelle Antigel.
Okay.
Qui a une dizaine d'années et qui, pendant tout le mois de février, quasiment, ils font pas mal de manifestations, des concerts, des performances et des soirées. Et là, j'y étais début de mois pour la soirée d'ouverture au Motel Campo.
Oui, parce que du coup...
Là, c'est ma carte, la créole et aussi Mysterious Skin.
Ok, donc tu vas faire la teuf. Non, en plus, c'est toi qu'on doit écouter. Si tu dis que tu vas faire la teuf à Genève... t'es payé par l'office de tourisme de Genève ou pas?
Non, du tout. Mais franchement, là, je recommence à reconnecter avec Genève depuis 3 ans et par le biais de ce festival. Et franchement, c'est cool, en fait. Et là, en fait, c'est pas une créole qui va se faire, mais on fait une curation de la créole... Enfin, une curation pour un line-up, pour un événement. Le 24 février, voilà. Pour ceux qui sont dans le coin en Suisse.
Pour ceux qui sont en Suisse.
Voilà. Mais non, c'est. Enfin, je sais pas, je découvre une scène nocturne à Balbec que j'avais pas le temps d'expérimenter parce que quand j'étais étudiant, j'avais juste une bourse de 440 euros et on pouvait pas faire grand chose avec ça. Donc en gros, c'était bouffer et acheter du matos avec ça. Donc j'allais pas très loin et j'allais pas en soirée. Et quand j'ai juste le McDo, quand j'ai su que ça coûtait 14 francs le menu Big Mac, je me suis dit, je vais rester chez moi et manger mes pâtes. Voilà. Mmh. Mais sinon, j'allais à la Migros, c'était sympa aussi. Et bon, ça c'était une grosse digression, désolé. Mais en tout cas, j'ai raté de peu le deuxième atelier. Donc on a été 10, ça a été éliminé dans ma classe. On était 30. Et en fait, de base, ce qui est un peu débile de leur part, et ça on l'a découvert au fur et à mesure du semestre, c'est que il y avait une capacité concrète à peu près de 22 élèves pour la première année. Donc ils ont mis 30 réponses positives, tout le monde a répondu présent. Et en fait, ils ont écrémé, ils l'ont fait, je crois, 2 ans après encore. Mais il semble que depuis, ça s'est pas trop refait. Mais bon, j'ai fait partie d'une promo qui a pas été chanceuse. Mais malgré tout, ça m'a pas... Mais bizarrement, sachant que je sentais pas que j'avais la légitimité de pouvoir bosser dans la mode auparavant, j'avais un intérêt pour la mode mais sans trop comprendre pourquoi et d'où ça me venait, mais le fait d'être passé par cette école, ça m'a conforté dans l'idée que c'est une industrie qui me parle, qui me plaît et dans laquelle j'ai envie de me défoncer et d'évoluer. Et c'est vrai que par la suite j'ai appris plus par moi-même à faire mes armes par l'observation en étant dans la vente. Pendant plus de 5 ans et demi, j'ai bossé pour un multimarque qui s'appelait Kokon Tsuzai, qui était un multimarque, même si le nom paraît japonais, mais en fait c'était une boîte anglaise. Et j'étais assistant manager, j'ai fait tout le set design pour les boutiques, vu que c'était le début de l'émergence d'Instagram, donc on faisait un peu la com pour les réseaux sociaux. J'étais un peu en charge de trouver des modèles qui étaient des clients pour faire les modèles Insta. C'était à l'époque de J'ai perdu ma veste, qui est un ami qui est décédé il y a 5 ans et qui nous a aidé à constituer un peu l'image d'Instagram. Lui, il a fait sa carrière par derrière avant de nous quitter, mais c'était ultra formateur en fait, et même c'est un peu là où j'ai commencé un peu à faire de la curation musicale sans trop le savoir, parce que je faisais les playlists de la boutique juste par plaisir. Et on a commencé à faire des soirées, souvent c'était moi qui étais plus en charge de trouver les DJ pour les trucs, et ça devenait des grosses soirées pendant la Fashion Week, donc c'était... Ce qui fait que ça m'a donné un peu des skills par la suite pour pouvoir me dire, bon, si j'ai envie de me lancer, que je sais à peu près comment travailler l'idée d'une image de marque, comment communiquer et autres. Donc ça m'a servi pour la créole, ça me sert aujourd'hui aussi pour ma marque. Même si je continue tout doucement à me développer, la commercialisation arrive tout doucement. J'arrive sur la plateforme Zalando normalement en mars. Si tout va bien, là j'ai encore des petits trucs administratifs à finaliser, mais ça se fait tout doucement. J'étais encore au Portugal en début de mois pour voir des usines pour produire des pièces aussi. Donc voilà, donc je me développe petit à petit.
Ok. Petite interlude pour faire les remarques du chat. Donc il y a Manon Rico qui dit il vend très bien la fête à Genève, ça donne envie d'y aller. Et sinon il y a Dave Youbou qui nous dit petit mot de love, je vous regarde depuis Montréal, il est 14h, très agréable de vous écouter au travail. Donc voilà, bisous depuis Paris à Montréal,
des gros bisous.
Et non mais c'est hyper intéressant, et justement quand t'as fait ces formations dans la mode, et quand t'as est-ce que tu te voyais déjà lancer ta marque, ou est-ce que tu rêvais de rejoindre une maison?
En fait, quand j'étais étudiant, j'arrivais pas trop à voir quelle marque pouvait être un peu dans ce que j'avais envie de faire ou envie de me développer. KTZ, enfin Kokon Tsuzai et la marque KTZ, puisque c'était un peu l'entité qui intégrait cette marque, a été un peu mon école, même si j'avais pas vraiment de professeur. C'était plus la réalité du marché de la mode que j'ai pu observer, d'essayer de comprendre aussi, même si j'étais au point final de la chaîne, d'être juste celui qui vend, de voir aussi comment un client se positionne par rapport à un prix, quel type de produit il peut être, sur lequel il peut s'orienter en fonction de ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, ce qui lui donne, qui peut être des pièces coup de cœur en boutique. Ça peut être des pièces très simples comme genre des chaussettes, des casquettes, des fondamentaux à essayer de voir en fait qu'est-ce qui peut aider à faire du cash flow pour une marque. Et en même temps, essayer de voir aussi le côté image, qu'est-ce qui peut permettre de faire de l'image pour une marque, même si c'est pas forcément ce qu'il vend. De voir aussi que l'influence des personnalités ou autres peut amener aussi à faire un déclenchement d'achat compulsif auprès des fans. Je sais que quand on a eu des clients comme Nicolas Formichetti, comme Taiga, comme A$AP Rocky, Djibril Cissé, c'était un de mes clients, enfin, le coiffeur de Rihanna, Youssef, que j'ai connu aussi à la boutique, c'est de voir aussi que par le fait qu'il porte les pièces, qu'il les identifie sur Instagram, que ça ramène des clients. On avait eu Rihanna qui avait porté une de nos tenues qui fait que les gens se sont excités pour pouvoir venir acheter presque dans la foulée. Kanye West aussi y est, qu'on doit dire maintenant, mais aussi il avait porté des gants. Alors là, tous les fans étaient hystériques, ils voulaient absolument voir les trucs. Ça nous a permis de nous rendre, enfin moi ça m'a permis de me rendre compte en fait de quel est l'impact que peut avoir de manière très commerciale et populaire un individu pour créer une impulsion d'achat. Et alors que ma manière de consommer du vêtement n'a jamais été comme ça en fait. Enfin, j'ai rencontré aussi Janet Jackson aussi au passage, Iggy Azalea.
Jackson qui s'habille tout le temps en Ryder Ackerman. Voilà.
Petit clin d'œil.
Qui portait des chaussures Yves Saint Laurent. Qui fait du 37, ça je me rappelle très bien.
Okay. Oh my god, ok. On a ça.
Et je crois que ce soir, vous repartez avec des infos clés.
Je crois que c'est la seule personne. Je crois que j'avais même croisé. Il y a Björk aussi qui était passé à la boutique. Je crois que c'est l'une des. Janet Jackson, c'est l'une des seules personnes où j'ai failli. Je pense qu'elle a mon côté un peu fan qui a grandi avec la musique de Michael et de Janet et qui pas qui répétait les chorés et compagnie, mais qui a grandi avec ses icônes en fait. Et là ça m'a fait vraiment bizarre de la rencontrer. Et c'est vrai que j'ai le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'ai l'impression que c'est comme si je tombais amoureux de quelqu'un.
Trop mignon.
Mais c'est vrai que j'avais mon collègue qui lui n'a pas réussi, enfin il était resté tétanisé, et c'est moi qui suis allé vers elle pour parler avec mon niveau d'anglais qui était vraiment minable à l'époque et qui a beaucoup évolué depuis. Mais non, ça a été, franchement, ça a été mon école. Et même s'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses qui se sont passées dans mon expérience là-bas, mais j'en tire que le positif pour grandir et aussi faire ce que je fais.
Justement, on va parler de Créole, ta marque aujourd'hui. Juste avant, il y a une remarque de Fateh qui dit « Bravo, hâte de voir ça sur Zalando ». Donc tu disais que Créole allait arriver sur Zalando autour de mars. Moi, je me rappelle avoir vu ta première collection à travers une vidéo de Loïc Préjean, qu'on va peut-être montrer d'ailleurs, pour faire se faire une idée de ce que tu fais.
Non, je le disais, j'avais les cheveux plus courts parce que c'était il y a 2 ans et j'avais coupé mes cheveux quelques jours avant le reportage.
Et en fait, justement.
Oui, je l'avais vu aussi.
En fait, je crois que la vidéo est sortie en juin 2021 et je pense que c'est intéressant de se demander comment. Ah oui, c'est le moodboard là?
Où, sur le slip. Non, c'est le début, il y avait la partie.
Le teasing du moodboard. Excusez-moi, parce que oui, dans les vidéos de Loïc Préjean, il y a un format qui s'appelle moodboard. Il le gueule comme ça, et ça m'est resté en tête, donc preuve que c'est un bon jingle efficace qui reste en tête. Du coup, oui, il avait fait cette vidéo, parce que Loïc Préjean a une chaîne YouTube, Loïc Préjean en documentariste sur Nice Mad, qui a fait ses débuts à Libération, il me semble. Qui est hyper intéressant, et du coup il va un peu dans les coulisses de la création sous différents formats, et là c'était ta première collection.
Première, et j'ai l'impression que je passais mon bac quand j'ai quand j'ai présenté, parce que après l'école, j'ai tenté de postuler pour d'autres formations en France, dont Dupéré en licence pro, et suite à une dernière candidature où en gros on me disait « oui, vous avez un niveau trop professionnel pour notre formation, qu'est-ce que vous venez faire ici ?»
Je me lance-toi. Okay.
Et en fait, ça a été ça en fait, et je crois que c'était une de mes profs de lycée que j'embrasse, Madame Nicolas, que je suis encore, et souvent quand je retourne en Guadeloupe, j'essaie de tout le repasser dans mon ancien lycée pour partager un peu mon expérience aux jeunes générations, leur montrer que oui, on peut exister et se défendre avec notre identité, donc ne pas non plus se fondre dans la masse des autres marques. Et que l'identité créole aussi a sa place sur le marché international. Elle m'avait dit, ouais, comme quoi, si c'est ça, tente des concours et tente le festival de hier. J'ai postulé 3 années d'affilée. J'ai fini 2 fois en présélection. Et c'est jamais passé. Et je me suis dit, bon, on va arrêter de vouloir essayer de séduire des gens, des institutions. Et j'ai lancé l'idée du... Enfin, en même temps, j'avais lancé ce projet Creole Soul, qui était un projet visuel avec Fanny Viguier, qui est mon associé qu'on aperçoit aussi dans la vidéo.
La personne blonde.
Mon associé de la Creole, et qui est... la voici. Qui est photographe, plasticienne... Ah, c'est mon ex. Avec son frère. Et en fait, c'est...
Encore mon ex.
certainement pas pour Simon, mais en tout cas c'est,
bisous, Simon.
C'était l'idée de pouvoir déconstruire mon identité, parce que j'ai toujours eu cette espèce de problématique, aussi bien quand je vivais en Guadeloupe, parce que je suis né à Paris, pas dans mon histoire, en fait je suis né à Paris, mes parents ont vécu pendant 4 ans en France et je suis né sur la 3e année, et en gros on est retourné en Guadeloupe passé mes 1 an. Et je sais pas pourquoi, depuis petit, vu que je savais que j'étais né à Paris, je me suis toujours considéré comme parisien avant d'être guadeloupéen. Et en fait, je pense que c'est un peu un mindset que j'avais de me dire, même si je grandis sur une île que j'adore, dont l'histoire est hyper riche et hyper forte, je m'y ennuyais beaucoup. Et en fait, j'ai toujours cette espèce de goal de me dire, faut que j'aille à Paris, c'est Paris, c'est ma ville. Et au final, bon, j'y vis depuis un peu plus de 10 ans et je m'y trouve relativement dans cet espace. Mais et je m'étais toujours dit, mais en arrivant pour mes études, je me dis, mais je suis le moins bon représentant de mon île, en fait, de mon identité. Et j'avais toujours l'impression d'être un peu un outsider, parce qu'aux Antilles, on me prenait toujours pour quelqu'un qui, soi-disant, s'habille comme un blanc, comme un négropolitain, comme un... Et alors, en fait, juste parce que j'avais des références un peu différentes de la culture mainstream là-bas. Et en arrivant ici, en fait, on me renvoyait à mes origines antillaises parce qu'on entendait un accent, on se disait, ah ben tiens, t'es... Mais ce qui était bizarre, c'est qu'on pensait que j'avais juste un de mes parents qui était antillais, mais que j'avais grandi en France. Enfin, il y avait cette espèce de projection.
Ouais, t'inventes une vie comme ça.
Ouais, non, mais en fait, je me suis toujours dit, et souvent j'avais cette impression, je me dis, mais putain, je suis le plus mauvais représentant, en fait, de mon territoire. Et en fait, avec le temps, en fait, j'ai commencé à déconstruire aussi le truc de me dire, est-ce que il y a une manière propre de ressembler à un Guadeloupéen, un Antillais, quelqu'un des Outre-mer? Et en fait, il n'y en a pas au final. Et même qu'on regarde le traité du tout monde avec Édouard Glissant, le concept de créolisation, on se rend compte que chaque humain, même s'il vient d'un groupe social dans un territoire particulier, il se nourrit de toutes les expériences qu'il a à travers sa vie, en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez poreux, et même né dans le chaos et la douleur, en fait, le résultat de notre culture aussi a été totalement improvisé et existe sous plusieurs formes à travers le monde. Donc c'est vrai que les sociétés créoles, on peut dire que c'est les dernières civilisations qui ont apparu sur l'humanité, et elles ont, sur tous les territoires où elles ont apparu, sachant que c'était presque de manière un peu... pas synchronique, pas synchro, mais bon, ça s'est fait presque à des moments assez similaires. Ils ont su se réinventer à travers toutes les contraintes qui leur ont été imposées. Et bizarrement, moi, j'avais des espèces de projections qui étaient faites sur moi, qui m'ont dit, oui, tu ressembles pas à un Guadeloupéen. J'aime, même une personne noire m'a déjà sorti en soirée, qui est venue me parler en anglais en soirée, me dit, ah, where are you from? C'est from Paris. Et me sort. Après, il me sort, ah bon, t'es français? Je lui dis, mais il y a une manière de ressembler à, je sais pas, parce qu'il y a plein de gens qui se disent facilement quelqu'un qui est racisé, qui a peut-être un look un peu plus appuyé, soit il est anglo-saxon, donc américain ou anglais. Ouais. Et je trouve ça, toujours trouvé ça un peu débile, en fait.
Ouais, comme, c'est ce que j'ai remarqué
comme
aussi.
Comme approche. Et le mec m'avait suivi, enfin, enchaîné avec un argument en me disant, tu fais pas très couleur locale. Pour un parisien. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi, en fait? Et je me suis dit, mais pourquoi je vais essayer de draguer des gens en leur disant, oui, j'ai l'air d'être plus légitime, ou défendre une légitimité qui peut apparaître sur certains points et compagnie. Et en fait, à travers ma marque, c'est vrai que j'ai essayé de déconstruire aussi bien certains clichés pour les amener avec une poésie, un travail texturel, de texture, de technique, qui peut évoquer des éléments qu'on peut avoir dans l'architecture, qu'on peut avoir dans le linge de maison, dans les vêtements du vestiaire féminin, dans le costume, qui touche au folklore et qui sont retravaillés avec des techniques qui sont soit proches de la couture, soit proches de techniques d'impression avec du cyanotype, des tie-and-dye qui évoquent des couleurs un peu rastafari, avec le côté rouge-jaune-vert qui est très facilement assimilé à la Jamaïque. Et essayer de voir comment, à travers ces codes, je peux aussi apporter des coupes, des formes, des matières qui me parlent un peu plus et qui peuvent me raconter personnellement, de manière proche ou lointaine, ou de traiter de sujets comme le chlordécone, qui pour moi est un problème qui est endémique et qui est vraiment problématique, qui n'arrive pas à exister au-delà de certains recours juridiques et qui n'aboutissent pas. Qu'on voit encore le dernier long lieu qu'il y a eu au niveau du tribunal de Paris. En
fait. Petit point
en
contexte, le chlordécone, qui est un pesticide qui a été largement utilisé dans l'agriculture aux Antilles, mais pas que, mais en tout cas aux Antilles, il a été utilisé plus longtemps que dans l'Hexagone, par une dérogation qui pose question, justement, et depuis, la Guadeloupe et la Martinique possèdent le record mondial de cancer de la prostate. Donc voilà.
Oui, c'est un sujet qui bizarrement n'arrive pas. Qui, pour le coup, m'a toujours surpris, qui n'a jamais vraiment été abordé de manière un peu consistante par des créatifs...
Hexagonaux
Non, ou ultramarins.
Ouais.
Et j'ai toujours... Enfin, je pense que c'est peut-être un peu dans la peinture qu'on pouvait retrouver des trucs ou des choses qui étaient évoquées dans des chansons, mais il n'y avait rien de vraiment palpable, en fait, à chaque fois. C'était plus... On nomme juste le mot comme étant le mal, et puis on n'arrive pas à essayer de retourner un peu la situation pour dire ok, on est certes victime de ça, mais montrons quel est le problème. Et en fait, au-delà du nom de cette molécule qui est le chlordécone, je voulais aussi mettre en avant le charançon noir du bananier, qui est l'insecte qui est à la cause de l'usage de ce pesticide, de remettre les étiquettes des produits qui ont, même si quitte à avoir des problèmes un peu... Bah, pour le moment, ils n'ont pas encore sorti commercialement, donc techniquement, on ne peut pas vraiment...
Ça, c'est le chlordécone, voilà. Ce que vous voyez à l'image.
Et là, c'est le charançon dont j'en ai fait un print, un peu comme si c'était un tissu à poids, en fait. Et ça, c'est des éléments qu'on retrouve beaucoup dans certains vêtements, dans certaines époques, surtout dans les années 80. Et en fait, je voulais essayer de faire des espèces de petits va-et-vient comme ça, entre des références pop des Outre-mer face à... des éléments peut-être un peu plus sexy, comme le maillot de bain où il y a le fameux une gravure botanique de bananier qui est dessinée un peu comme un effet d'onde, en fait, tout en ayant le monogramme, certes, mais pour rappeler justement que ça se diffuse, et le fait que ça soit un maillot de bain, ça évoque aussi là où se trouve, enfin ça se rapproche de la prostate. Donc en gros, c'est essayer de faire une pièce qui symboliquement cristallise en fait cette problématique, et je trouvais ça intéressant de pouvoir, là c'était la formule chimique, le dessin chimique de la molécule. Et en fait, je me suis amusé avec des codes comme ça, en fait, parce que oui, c'est bien gentil de juste dire oui, le chlordécone, En fait, là, j'essaie de le montrer sous des formes différentes, pour essayer d'attirer, là, c'est la fameuse, le monogramme avec la gravure botanique.
Oui, attirer l'attention, effectivement.
Et en fait, c'est essayer de montrer le problème différemment, et c'est pas forcément dans l'idée de le sublimer, mais juste de pouvoir le montrer autrement et pouvoir mettre ce sujet sur la table sans avoir à complètement se victimiser, mais juste montrer en fait...
Oui, c'est de la sublimation, quelque part. Et justement, pour que les gens comprennent bien concrètement cette collection que tu présentes en juin 2021, est-ce que c'était possible de l'acheter? Qu'est-ce qui se passe pour un jeune créateur entre le moment où tu présentes une collection et pour le grand public qui la voit sur Instagram ou ailleurs, est-ce qu'ils peuvent l'acheter ou pas? Qu'est-ce qui se passe?
Pour le moment, il y a des pièces, les maillots de bain, je suis en train de bosser dessus. Donc ils vont vraiment sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me relancent là-dessus. Toute la collection ne le sera pas. Il y a des pièces que je verrais peut-être développer en petites capsules pour des petits stocks. Donc je vais essayer de travailler, en plus de Zalando, sur un e-shop aussi pour peut-être mettre en précommande des produits pour aussi plus facilement voir produire à juste échelle, même si ça revient un peu plus cher, mais produire à juste échelle par rapport à la demande. Donc c'est des sujets que je traite en ce moment.
D'accord, parce que justement c'est pas automatique que ce qui défile soit commercialisé, on est d'accord.
Bah, ce que j'ai essayé de faire en tout cas avec la première collection, c'était surtout de poser les bases d'un propos créatif, d'un propos identitaire à travers d'une marque. Je crois que j'ai auto-financé. Je crois que j'avais juste lancé une petite cagnotte vite fait pour pouvoir payer des prints pour faire les protos. Mais c'est vrai que je savais pas du tout si ça allait plaire ou pas. Et je pars souvent du principe que je suis pas là pour séduire tout le monde, puisque je sais très bien que travailler une identité avec une patte très queer, même s'il y a des éléments qui peuvent être portés par tout un chacun, tout un tas d'identités, mais je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir proposer une vision qui était extrêmement libre par rapport à quelque chose qui est tellement renfermé dans une espèce de conformisme presque colonial où on se dit les outre-mer c'est juste la plage, c'est des endroits où on va en vacances, les gens sont souriants, ils ont la belle vie, la nature est luxuriante, donc ils sont chanceux, ils doivent en être conscients, mais en fait on a une précarité dans certaines considérations auprès de l'État français qui fait qu'on a encore des problèmes d'eau, on a des problèmes d'électricité, quand des gens m'ont posé déjà des questions, est-ce que vous vivez dans des cases ou dans des huttes, enfin il y a des trucs où on se dit bon, on est une extension de la France, certes on n'est pas rattaché, enfin on est un territoire français, on n'est pas la France. Pour moi, je suis quand même ce qui montre qu'on reste quand même une forme de colonie, donc on est un territoire français, mais en soi c'est pas la France, c'est une extension de la France mais qui est pas l'hexagone. Donc oui. Ça c'est, et je sais que j'avais déjà eu un débat avec un ami là-dessus, il me disait non mais la Guadeloupe c'est la France, je lui dis non, la Guadeloupe c'est un territoire français.
Mais c'est différent. Pour petit point de contexte, à l'image, ce que vous voyez, c'est la deuxième collection de Vincent-Frédéric Colombo avec sa marque créole.
Queer Punk Rasta.
Et est-ce que tu veux nous montrer, nous parler des pièces que tu as ramenées?
J'ai ramené vite fait quelques pièces.
Voilà. Alors, je crois que je peux zoomer. Je vais essayer.
C'est Queer Punk Rasta?
Ouais.
Franchement, ça dit tout là.
sur cette pièce, en plus, c'est assez drôle. J'ai essayé de reprendre. Un bonnet qui a vraiment été porté par Bob Marley dans une archive que j'avais trouvée et en fait il y avait vraiment ce motif, bon c'était beaucoup plus grand parce que c'était vraiment un bonnet pour inclure ses locks et je voulais vraiment essayer de reprendre l'idée du dégradé des couleurs qu'il y avait dans ce bonnet et j'ai travaillé avec Yann de Chambre qui m'accompagne depuis la première collection qui a fait l'ANSI comme textile designer et il aime beaucoup le crochet et il voulait faire avec moi en plus de base ça devait être un dourag faut dire, ça devait être un dourag mais en fait il nous manquait beaucoup de temps et ça prenait énormément de temps à produire donc en gros finalement on l'a détourné en bonnet et c'est crocheté avec les perles intégrées dedans en fait et juste enfiler les perles ça a pris 8 heures.
D'accord.
Ouais. Parce qu'il fallait le classer dans l'ordre chronologique dans lequel ça devait apparaître. Et il y a 40 nuances de couleurs sur ce bonnet. Donc, avec des tailles différentes. Enfin, voilà. Donc, ça reprenait l'idée d'un bonnet qui a été porté par Bob Marley pour celui-ci. L'autre ici. C'est un autre bonnet, mais qui peut se porter un peu comme un chapeau, qui est en fil chenille. Donc c'est à ce côté un peu velvet qui est hyper agréable. Et l'idée chromatique, en fait, c'était de reprendre les codes colorés des cartes météorologiques par rapport aux comment ça s'appelle encore, les signalements de danger pour les cyclones.
Ok.
Et en fait, il y a ce côté quand c'est en alerte rouge, alerte orange, alerte verte, alerte grise, alerte blanche. Enfin, il y a plusieurs coloris. Et d'accord. En fait, et même au niveau de la forme, on reprend un peu l'idée justement du cœur du cyclone qui après se propage dans des dégradés colorés différents.
Ok.
Et là, Yann est en train de produire quelques pièces pour en vendre aussi très prochainement. Donc, made in France et fait main.
Made in Yann.
Ouais, Made in Yann. dans le Cantal, même si enfin, il est entre le Cantal et Paris, mais voilà. Donc ça fait partie des pièces que je trouvais hyper fortes, et surtout même les bonnets sont des pièces qui sont assez pas mal portées par beaucoup de personnes un peu nappies et qui reprennent une esthétique un peu très années 80 et 70. Donc je trouvais ça hyper intéressant de reprendre des espèces de des éléments un peu iconiques du vestiaire qu'on voit pas forcément de manière très probante, parce que souvent on se dit bon, le style caribéen c'est quoi, le style créole c'est quoi, et en fait j'ai un peu en quête d'archives pour voir un peu qu'est-ce qui peut être réexploité. Donc voilà.
C'est quelle matière?
Je crois que c'est une matière synthétique celle-ci, parce que c'est pas du coton.
Ok. D'accord.
C'est un velvet.
T'arrives à reconnaître,
c'est un velvet synthétique, donc oui, je pense que c'est pas du polyamide.
Je pense que c'est du polyester.
Ah, c'est du velours de polyester.
Ouais.
Je pense que c'est du velours de polyaster.
Genre dans le monté.
Faut le brûler, non?
Ouais, va brûler.
Même
brûler, on pourra pas.
Si t'as du velours de coton, ça te coûterait une fortune.
Après, je sais pas si je monte le pull. Bon, quoi qu'on apercevait dans la vidéo de Loïc.
De façon dézoomée, donc.
Mais là, c'est le fameux pull en crochet qu'a fait Yann il y a 50 heures de travail là-dessus.
C'est hyper régulier.
Ouais. C'est ça qui est incroyable.
Ça reprend beaucoup le côté le napperon de mamie, mais le fait que ça soit fait dans un fil effet jean qui est en coton pour cette fois. Donc il y a quand même ce côté un peu, ça rappelle le napperon, mais en même temps quand c'est porté sur le corps avec tous les ajourés, ça crée quand même quelque chose d'assez sexy. Volontairement, il y a ce côté un peu cut out au niveau du col, donc qui laisse quand même le col. Enfin, ça peut limite devenir une signature aussi de développer des pièces comme ça. En fait, l'idée de cette pièce est venue de faire un hommage à Ali Tur, qui est un architecte français qui est né en Tunisie, de père architecte aussi. Il a fait sa formation en architecture en France, mais en fait il avait été missionné en Guadeloupe suite à un cyclone en 1928 pour reconstruire énormément de bâtiments officiels et privés en Guadeloupe, spécifiquement en Guadeloupe. Et en fait, il a rebâti énormément de bâtiments. Et dans l'architecture, ce qu'il reprenait, c'était l'idée des claustras, dont il s'est inspiré des moucharabiers qu'il a vus quand il vivait en Tunisie. Et il l'a réintégré dans l'architecture, et c'est des éléments qui étaient faits en béton. Et en fait, j'essaie de reprendre un peu des éléments visuels qu'on retrouve dans beaucoup d'architectures maintenant, qui font partie de l'esthétique créole dans la Caraïbe. Et même à Miami, on peut voir aussi, il y a des maisons avec ces espèces de claustras en béton. Et en fait, c'était faire une espèce de référence à ça, alors ce qui est un peu déconnecté d'une manière très traditionnelle, mais vu que ça s'est tellement inscrit dans le paysage, en fait, que ça fait partie aussi de la référence pop qu'on peut y avoir là-bas. Et c'est une manière un peu de faire un lien entre le napperon de mamie et le crochet, qui est énormément revenu suite au confinement. C'est assez drôle. Enfin, les métiers manuels en tout cas sont revenus énormément. Et le fait d'avoir quelque chose qui le rend peut-être un peu plus masculin, du fait d'avoir ce côté un peu jean, donc ça le rend moins mémérisant.
D'ailleurs, ce que tu portes toi-même, c'est un peu une inspiration napperon.
Alors, c'est un peu une espèce de continuité de cette pièce, mais cette pièce, j'ai travaillé avec Thomas Pierre-Jean, qui a fait.
Je mets son Instagram dans le chat.
Il n'y a pas de souci. En plus, il a sorti de nouveaux produits. Enfin, je vais peut-être décaler le micro pour qu'on voit mieux. Et en fait, on a travaillé l'idée d'une espèce de vitrail avec. En fait, il y a trois motifs. Celui-ci, c'est le couple lesbien. Qui est accompagné de quelques compositions florales, parce qu'on retrouve beaucoup d'effets floraux aussi dans le travail de Thomas. Et en fait, on s'est basé sur quelques images de couples, pour le coup des couples racisés. Donc il y a le couple de femmes, le couple d'hommes et un couple hétéro, donc un homme et une femme. Et celui-là que j'ai pas trop présenté parce qu'il y a un petit souci sur le
coup, photo, je
mais ben, je l'ai porté à la fin du défilé en fait.
D'accord.
De manière un peu subliminale, mais j'ai pas trop présenté, mais en tout cas le travail de Thomas est sublime, cette espèce de napperon et de broderie qui devient extrêmement sexy, qui est très queer aussi, je trouve une pièce
j'aime trop.
Et c'est une pièce qui est assez... Et c'est drôle, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça fait penser au travail de Jean-Paul Gaultier en découvrant cette pièce.
Okay.
Et j'ai énormément de demandes aussi pour des mariages.
Improbable.
Ouais, j'ai beaucoup de couples gays et lesbiens qui m'ont écrit suite au défilé parce qu'ils voulaient porter ces pièces pour se marier.
Ok.
Donc, mais je suis en train de travailler encore sur le développement. Mais ça revient cher parce que là c'est un travail qui est quasiment couture sur une pièce qui a l'air presque sportswear parce que ça reste du mesh en polyamide, mais en même temps, mais je pense le retravailler un peu différemment parce que là j'ai acheté dans un deadstock la matière et je pense peut-être retravailler vite fait la compo, toujours avec l'idée des oiseaux qui sont autour, qui
la matière, c'est-à-dire le
non de retravailler le motif.
T'as acheté le fil?
Non, là j'ai acheté le
tissu, enfin la maille.
Là c'est du deadstock en fait. J'ai acheté, il était totalement comme ça avec le.
Et t'as retravaillé dessus une broderie.
C'est une incrustation.
Et ça c'est main.
Ouais, c'est main. Mais ça peut être produit.
Et au niveau des matières, tu utilises quoi comme matière en règle générale?
Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Il y a un peu de ça, un peu de débrouille, un peu pour essayer de voir un peu comment je peux amener ce que je l'idée qui est. En tête, il y a quand même aussi cette idée de collaboration aussi avec des jeunes artisans ou des artistes. Là, j'ai travaillé surtout avec Yann de Chambre pour la maille, Thomas pour cette pièce, en une incrustation. Et par exemple, j'ai travaillé également avec Ash Allan, qui est un artiste américain, qui a un compte Instagram qui s'appelle Soft Shade, et il travaille beaucoup le cyanotype. Et en fait, j'ai fait travailler un peu des...
Ça, c'est incroyable.
Celui-là, il n'était pas dans le défilé.
Cyanotype, c'est une technique d'impression à travers les rayons du soleil, en fait, enfin, de la photographie va réagir aux rayons du soleil. Les pigments bleus vont se révéler comme ça.
Il faut mettre une espèce...
Je vais mettre de ce sens-là pour montrer aux gens les visages.
Et
les
et en fait je trouve que c'est assez beau de travailler aussi avec un artiste pour essayer d'interpréter aussi déjà dans son travail. Bon, après là on voit que c'est vraiment un proto, la finition n'est pas bien faite, je l'ai faite en 2-2 avant le shoot et parce que j'ai pas eu le temps de les faire pour le défilé. Et je trouvais ça hyper beau de travailler, de donner une espèce de ligne directrice, un mood board avec des référents sur lesquels, et des thématiques sur lesquelles je voulais qu'ils travaillent, et de voir un peu comment ils se réapproprient mon univers. Et là, en fait, vu qu'il a un univers qui est très homoérotique, avec de base, en plus c'est dommage sur ce visuel, de base on était censé voir le sexe du monsieur, mais bon.
Ça serait pas passé sur Twitch.
Ouais, ça serait pas passé sur Twitch. Ouais, non, ça passe
pas. On peut dire des gros mots, mais on peut pas montrer
qu'en
fait.
Si c'est artistique, ça passe pas.
Mais en tout cas, de base, ça doit être fait, mais en fait, il y avait une autre référence qui était mêlée avec, et en fait, ça aurait porté vraiment à confusion, ça m'aurait totalement desservi. Puisque je voulais faire une référence personnelle à une voiture qu'avait mon grand-père, qui était une Toyota Cressida. Et sur le positionnement, en fait, on voyait pas tout le Cressida, mais on voyait surtout Sida écrit en bas, donc je lui ai dit, il va falloir changer. Surtout en anglais, je pense pas qu'il ait fait la différence. Mais il y a un travail qui était hyper cool, où je lui ai demandé de travailler en tout cas sur l'espèce de masculinité toxique, de travailler aussi sur le combat de coq, et également les iguanes. Je lui ai demandé même de faire une référence à des telenovelas comme Marimar, la collection, il y a un t-shirt et c'est avec Thalia, la chanteuse Thalia, mais dans le rôle de Rosalinda. Et je me suis amusé à faire une espèce de joke avec la présence d'une photo de Thalia avec la rose de Rosalinda et la société porno gay Planta Rosa Production, mais j'ai twisté en mettant Rosa Planta Production.
Pointu, j'aurais pas eu la ref.
Mais je trouvais ça très drôle.
Moi, j'ai Carmen, tu vois.
Moi, j'ai trouvé ça très drôle de faire ce petit pic comme ça.
Ok.
Donc voilà, je trouve que c'est quand même cool de mettre un peu d'humour dans les productions, même si je peux toucher des sujets très graves aussi, comme l'environnement et le chlordécone. Mais
on peut faire les deux. On passera le mot à Aïda et Carmen. Ok.
Et il y a également les petits caleçons que j'ai fait du travail. En plus, là, c'est vraiment dans l'idée de ça va se produire très bientôt, qui ont pas mal marqué les esprits lors du défilé.
Tu crois que c'est les caleçons qui ont marqué les esprits ou les mannequins qui les portaient?
Bah, faut croire que mon casting a l'air de plaire à chaque fois et je fais moi-même mon propre casting à chaque fois. Et en fait, c'est, de base, c'est très drôle parce que pour ce caleçon, je m'étais inspiré d'une photo d'un mec que j'avais aperçu sur Tinder qui, justement, portait son slip et par-dessus un caleçon. C'est... qui était placé plus bas et en fait il y avait ce côté d'ouverture en fait qui laissait, enfin qui dessinait le...
Mais c'était pas un short ?
Non, c'était... non, il portait un vrai slip et un caleçon.
D'accord.
Superposé, et en fait je trouvais ça très drôle en fait le dessin que ça faisait, donc j'ai voulu recréer l'idée d'un caleçon slip.
Parce qu'en même temps, c'est une photo Tinder.
C'était sur Tinder ou sur Instagram, je sais plus, mais je crois que c'était une caleçon que j'ai fait sur Tinder.
En fait c'était Grindr, mais il veut pas le dire.
Non, c'est pas Grindr, mais en fait ce que je trouvais drôle en fait c'est que souvent le caleçon qu'on l'élément du sous-vêtement qu'on considère comme le plus masculin, c'est quand même le caleçon. Et c'est quand même... Il y a quand même cette espèce d'antise passé un certain âge pour l'homme de porter un slip. Et je trouvais ça drôle, en fait, d'imposer le slip sur le caleçon.
Pourquoi il y a une antise de porter un slip?
Bah, ouais, c'est vrai.
Le côté moulant.
Il y a soit le côté moulant, il y en a qui ne se trouvent pas à l'aise, en fait.
Que c'est qualifié pour les enfants aussi. Genre,
je pense que ça change pas grand-chose.
Ouais, c'est ça. Enfin.
Après, bon, chacun.
Attends, tu dis dans la communauté gay, au bout d'un certain âge.
Ah non, pas quoi. Non, de manière générale. Il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui n'aiment pas les slips.
Pour moi, c'est
un
des hommes hétéros qui n'aiment pas les slips.
Non, mais c'est pour ça que je me suis amusé à en faire un espèce de statement. Ah, et c'est très drôle. Mais c'est très drôle parce que j'ai beaucoup de mes mannequins qui l'ont porté pour le lookbook, que je sortirai bientôt. Il y en a un qui était hétéro, m'a sorti, mais putain, t'as eu la meilleure idée du monde. On peut avoir un caleçon dans lequel on peut foutre ses mains pour avoir accès au paquet. Je trouvais ça génial comme réponse.
What?
Je sais pas, j'y avais pas pensé, okay. Mais je trouvais ça très drôle, en fait, de se dire, comme quoi t'es même pas obligé de le baisser pour pouvoir avoir accès au paquet. Je me suis dit, bon, c'est une, mais c'est drôle de voir l'interprétation que les gens peuvent faire et.
Ok.
Voilà. Mais, voilà, c'était des petites anecdotes. En tout cas, c'est une pièce que je sors très prochainement dans 3 coloris. Et les maillots de bain, normalement, tous ceux que j'ai présentés, je les sors aussi pour mai-juin.
Je me disais juste, genre, oui, t'as le maintien du slip, mais l'esthétique du caleçon.
Exactement.
Avec, un petit, avec l'ouverture, le cut-out qui fait un peu sexy, quoi. Mm. Et le meilleur des deux mondes, finalement.
C'est presque plus culotte, en fait. C'est ouais. comme du tissu et pas du... Et
mais après, c'est très beau porté sur quelqu'un qui a des cuisses musclées.
Ok, donc ce n'est pas pour moi.
Donc c'est pour moi.
Non, ah. d'accord. En soi, là,
c'est cadeau. Tu l'as gagné.
C'est un taille médium, mais en soi, je sais pourquoi ça rend. Enfin, après, j'ai corrigé la chose, mais c'était juste sur la doublure. J'ai un peu renforcé pour que le maintien de l'ouverture reste bien droite.
Ah, ok, d'accord.
Parce que sinon, ça s'effondrait. Bon, c'est des corrections.
Si on n'a pas de
backstage. Okay. Behind the scene.
J'ai raté quelques commentaires dans le chat. Il y a Fatek qui me disait vivre sa double culture, c'est toujours compliqué. C'est une super façon de se réapproprier son identité. Manon Richou, avant de nous quitter, me disait les voyages forment la mode. Et sinon, il y a également Faté qui vient me dire « J'avais des rideaux avec un motif similaire à ton haut, j'adore la vibe. » Donc voilà. Et en fait, pour en revenir à tes caleçons, j'allais faire une blague avec Walden, tu prends tes caleçons sales, mais je ne vais pas la faire, c'est trop tard. Ce que je voulais dire, c'est, oui voilà, du coup, entre le moment où ça a défilé et le moment où ça va être achetable, ça veut dire que c'est passé plus de 6 mois en fait, ce qui arrive souvent quand on a un créateur.
Bah, de base, qu'on développe les choses, on a déjà un peu dans le sillage déjà les usines avec lesquelles on va produire. Moi, j'ai fonctionné à l'envers jusqu'à présent, c'est que j'ai beaucoup construit l'image de la marque avec des produits que je comprends à chaque saison, dans chaque collection qui deviennent assez demandés. Donc je vais pas mal me focus sur cela en priorité avant de pouvoir avoir des collections plus largement disponibles dans l'ensemble des pièces que je propose. Et en même temps, vu que je suis en autofinancement, j'ai pas encore de gros financement pour pouvoir me développer comme je le souhaite, mais c'est un peu aussi le travail que je mène ces temps-ci, c'est recherche de financement, business angels, des bourses. J'ai tenté des concours, j'étais dans la shortlist pour l'Andam l'an dernier. Je sais pas si je vais postuler encore cette année parce que je sais pourquoi ils m'ont pas pris. C'était surtout pour des raisons de chiffres. Parce que vu que je ne vends pas encore, donc pour eux, voilà. Et en fait, ils regardent beaucoup ces paramètres quand même pour avoir une notion de viabilité économique pour les prix. En même temps, il y a plein de gens qui gagnent des prix et des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Je dis ça, je dis rien. Mais Mais après, bon, en soi, je comprends. Il y a un intérêt sur ce que je fais et c'est cool. Je sais pas si la soirée est le seul vecteur qui fait qu'il y a une audience autour de moi, mais je pense que ça a aidé à pouvoir comprendre un peu plus le sujet que je traite. Donc, ce qui fait que j'ai des relais médias qui sont plutôt qualitatifs. En tout cas, il y a beaucoup de pièces qui plaisent à beaucoup de gens. Et il y a même des artistes qui ont voulu le porter pour des scènes, et malheureusement, vu que j'ai que les sample size, ça passait pas partout.
Il n'avait pas les cuisses assez musclées, d'accord.
Non, pas pour les caleçons, mais non, c'est juste pour des vestes, ça, c'était un peu trop petit. Je crois que j'ai deux artistes qui ont failli les porter pour des trucs assez... pour leur com, et en fait, c'était un peu trop tight pour eux.
Ce qu'on appelle les samples, c'est les prototypes, et voilà, donc c'est taille mannequin, et ça dépend de votre morpho.
Moi, je les ai pas vraiment fait taille mannequin, je les ai fait à ma taille.
Oui, tu étais ton mannequin.
Je suis un peu mon référent.
Et ma dernière question, c'était quel est le conseil que tu aurais aimé avoir et que tu aimerais partager aujourd'hui? Tu peux réfléchir.
J'ai presque les paroles d'une chanson de Lara Fabian dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Magique.
Mais vas-y, dis-le.
Encore. J'allais dire je t'aime. Je t'aime.
Non, mais,
c'est un bon conseil. Bien, merci.
Non, mais en soi... Je pense que j'aurais aimé avoir déjà peut-être un modèle comme ce que j'ai pu construire jusqu'à présent. En fait, c'est presque la frustration de ne pas voir quelque chose qui me satisfaisait depuis l'enfance et de me dire que je vois qu'on fait des choses autour de l'identité créole qui sont très fortes au niveau de la musique, au niveau d'un positionnement d'excellence qu'on peut avoir dans plusieurs domaines. Mais c'est vrai que la mode... J'ai jamais vraiment eu une vraie vision de prêt-à-porter avec cette identité, ou en tout cas, j'en ai pas eu le relais. Et c'est vrai que, il y a 15 ans, Facebook n'existait pas encore, enfin, peu de choses près. Enfin, on commençait à avoir Internet, c'est pas si vieux en fait. Concrètement, je suis né un peu dans la phase où Internet commençait à s'installer et tout.
Attends, mais dis-nous ton âge parce que c'est très mystérieux.
J'ai 32 ans. Donc je suis pas si vieux que ça, mais MSN, j'ai connu Caramel, j'ai connu...
Toi Sarah, t'as connu MSN?
Ouais.
J'ai connu Netlog, j'ai connu Skyrock.
Dis-nous dans le chat si vous avez un Skyblock et si vous avez connu MSN s'il vous plaît.
Et non, en fait le truc c'est avec le temps on a commencé à voir que la logique d'identité c'est... vulgarisé et aussi c'est démocratisé par des biais de connaissances qui sont pas que celui de l'école, et c'est vrai qu'au final il y a plein de choses que j'ai appris en dehors de l'école qui m'ont été formateurs, et c'est vrai que la curiosité personnelle au-delà de l'institution peut nous ouvrir des perspectives dans la vie. Donc en soi, être curieux c'est bénéfique, même si on est face à la critique aux moqueries, quand on grandit, même si on fait pas partie de la norme, on trouve toujours notre norme et on la construit nous-mêmes. Donc je pense que c'est peut-être ça que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune, c'est même si t'as pas l'air d'être dans la norme, tu trouveras ta norme.
Ok, très bon conseil. Qu'est-ce que t'en penses, Julia, d'ailleurs, avant qu'on...
Et que si t'es pas dans la norme, tu construis quand même ta norme.
Ou tu deviens ta propre norme.
Non, mais je ne fais qu'écouter sans commenter. Genre, je vois les paroles et j'ai besoin de m'en imprégner pour...
Est-ce que t'as une question pour Vincent?
J'ai trouvé très trop bien toute la partie inspirée. Enfin, en fait, c'est toujours pareil. Enfin, moi, j'ai une marque de vêtements, mais c'est pas créateur. Du coup, il y a beaucoup moins de sens, tu sais, derrière les trucs qu'on fait. Donc, toute la partie.
Il y a moins de storytelling.
Il n'y a pas un sens stylistique, tu vois. Genre, oui. Nous, on fait un pull parce qu'on pense que cette coupe, il y a moins d'usure qui se produit et que
c'est. C'est fonctionnel.
Voilà, c'est assez fonctionnel, etc. Et du coup, à chaque fois que, tu sais, il y a une histoire, par exemple, là, quand tu dis d'où vient l'inspiration, en particulier sur le chlordécone, quand je vois l'explication, finalement, de ces petites bête que je voyais sur le t-shirt, et du coup quand tu mets un sens à une histoire derrière, je trouve que je vois comment ça produit du désir, de l'attachement, etc. Et chose que moi je sais pas créer du désir en racontant une histoire et du style, quoi. Donc c'est je suis toujours là, ah c'est génial et tout, tu vois, enfin genre, donc je vois que c'est genre hyper.
Mais après c'est vrai que mon processus créatif est un peu bizarre parce que je dessine pas beaucoup.
Mais j'allais te demander si tu dessinais.
Mais en fait, je dessine pas beaucoup et je sais que ça perturbe un peu les journalistes à chaque fois quand je leur dis que j'ai pas. En fait, c'est à la rigueur, c'est quand je sais que je dois être en interaction avec un artisan. En fait, je lui fais un croquis basiquement en fait de l'idée, mais après j'aime bien passer par souvent par l'outil informatique pour montrer bon en gros l'idée c'est à peu près ça. Que la technique, c'est ça. En fait, je suis très curieux de comprendre les techniques des autres pour m'en imprégner et après aller avec eux pour raconter quelque chose. Mmh. Et je me rends compte que même là, quand j'étais au Portugal pour voir les usines de mailles ou de maillots de bain ou même pour faire les caleçons, enfin ils se disent à chaque fois, mais putain, c'est des défis techniques en fait auxquels ils sont pas habitués à faire face. Mais en même temps, je trouve ça hyper challengeant, en fait. Mmh. Donc, je suis assez content de me dire qu'à chaque fois, je suis pas dans une espèce d'attente méga commerciale, mais qu'il y a quelque chose qui reste impactant, mais pas rentable.
Mmh. Après, chaque créateur exprime de manière différente ses idées. Hein. Enfin...
Moi, je fonctionne beaucoup par les mots. Je fais beaucoup de notes, en fait, oui. Par rapport aux idées.
Moi je dessine beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens qui dessinent, il y a beaucoup de gens qui écrivent les mots. Et il y en a beaucoup de gens qui utilisent aussi l'informatique pour exprimer leurs idées.
Moi, je fais beaucoup de captures d'écran. Il y a tout qui m'inspire.
Oui, ça, c'est les captures d'écran aussi également.
Après, je fais un gros tri par rapport à ce qui vraiment me parle au final pour les trucs.
C'est ça.
Mais même les captures d'écran, c'est même pour me dire... En fait, j'ai l'impression que mon téléphone est un peu mon deuxième cerveau. Parce que je fais des captures d'écran souvent, en permanence. Mm. Bon, après, je fais un tri, je redigère un peu l'information, mais j'ai un nombre astronomique de contenu média sur mon téléphone. Enfin, j'ai plus de...
Non, mais ça, depuis qu'on a les téléphones, je trouve que...
Je crois que je peux me regarder, mais je crois que j'ai plus de 130 000...
Mais je trouve ça dommage que...
Non, 216 000 contenus médias sur mon téléphone.
Okay. Mais je trouve ça dommage que, je sais pas ce que tu en penses, mais que les journalistes souvent sont étonnés du fait que tu dises, en fait, non, je ne dessine pas. Pas forcément, sachant qu'en fait aujourd'hui, avec les outils en fait informatiques, avec la nouvelle technologie, etc., on peut se permettre d'exprimer nos idées de diverses manières. Mmh. Comme tu parlais des captures d'écran, à l'époque on pouvait pas faire de captures d'écran à part prendre des magazines et les couper, Exactement. Etc. Maintenant c'est plus facile. Voilà, on a juste à faire des captures d'écran. Il y a tout qui passe sur Internet, les réseaux sociaux. Et en fait, je trouve que maintenant la génération de jeunes créateurs qui arrivent et qui arrivent aussi encore plus tard, je trouve qu'il faut que les gens, les journalistes, les médias arrêtent de se dire que, arrêtent cette idée de dessin. Genre créateur est égal dessinateur.
En fait, souvent, les gens confondent comme le créateur comme un illustrateur de mode, comme était Karl Lagerfeld, même
exactement,
si c'est un très grand directeur artistique. Mais de base, c'est un illustrateur de mode parce qu'il ne savait pas coudre.
Oui, bah oui.
Moi, je sais que j'ai quelques skills en couture, je peux faire des patronages, des trucs comme ça. Mais de base, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est beaucoup de vêtements que je chine en fripe, pour beaucoup dans le workwear, pour... de plusieurs temporalités différentes, et c'est vrai que j'ai un peu les coins où j'aime beaucoup me trouver. Il y a même des fringues qui appartenaient à mon grand-père que je retravaille parce que c'est des coupes où il y a un certain affect, en fait.
Ouais.
Et il y a des choses aussi que mon père portait quand il était plus jeune et que j'ai retrouvé, que j'aimais réexploiter. Et c'est comme les napperons, j'en voyais tout le temps chez mes grand-mères. Et en fait, il y a toujours un peu ce côté entre l'affect personnel et en même temps des choses que moi aussi, dans lesquelles je me vois. Parce que je fais pas non plus une mode qui m'est complètement personnelle, mais qui autour de ma personnalité et se complète avec le narratif que je souhaite avoir. Je trouve que c'est hyper important de se sentir à l'aise et même d'être presque une forme d'ambassadeur de ma propre marque aussi, en fait. Donc,
mais c'est exactement ça. Mais parce qu'en fait, souvent, ça fait débat. Les gens se demandent, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un créateur ou une créatrice alors qu'il ne dessine pas, alors qu'il ne coupe pas, alors qu'il ne fait pas ci, etc.
J'ai quand même des skills, mais après, j'ai pas l'expertise de... C'est pour ça que j'aime beaucoup aller aussi vers des artisans, des façonniers qui, eux, sont experts dans les choses.
C'est
et je leur explique très concrètement ce que je veux, mais en ayant pris conscience de leur savoir-faire pour qu'on vienne pas me dire que c'est pas possible.
Ouais.
Okay. Je pense que je suis un petit peu psycho à ce niveau-là. J'essaie vraiment de m'imprégner de ce que les gens font. Je regarde énormément de documentaires, même dans des sujets totalement divers et variés. Et en même temps, je trouve que c'est hyper important de comprendre le langage de la personne pour qu'on se comprenne. Comme ça, au moins, il n'y a pas le côté ah oui, j'ai envie de faire ça et que c'est pas possible. En fait. C'est que moi, je me dis simplement, j'essaie de comprendre l'environnement de la personne pour qu'on ne soit pas dans une mécompréhension en fait, l'un et l'autre.
Impossible n'est pas créole. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup, Vincent.
Merci à toi. Merci.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.